Désolé, hein, j'ai la chance là, d'enlever le masque. Donc, quand j'étais un jeune homme, hein, il y a, je sais pas, 15 ans, une quinzaine d'années, hein, je faisais le marathon de Rotterdam. Et Sylviane elle a de bons souvenirs de ce marathon de Rotterdam. Et je suis parti trop vite. Tu vois, j'étais ambitieux. J'ai dit, voilà, paf. Et j'étais étonné. J'ai dit, waouh. Et aussi, juste avant, j'étais un peu malade. Mais je dis, oh, c'est pas grave. Et je pense que je jeûnais aussi à ce moment. Et donc là, c'est vraiment la stupidité de faire un marathon. Et je dis, oh, mais ça va aller. Et avant, Sylviane m'a dit, oh, mais si tu te sens pas bien, il faut t'arrêter. Et je dis, Sylviane, il faut jamais me dire ça. Parce que dans ma pensée, je dis, je vais courir jusqu'à la mort. Et je vais jamais m'arrêter. Tu vois. Donc tu vois combien on peut être têtu et bête et stupide. C'est la jeunesse. Hein, mais il y a 15 ans, je suis toujours un peu comme ça. Mais... Et donc là, je courais et ça allait très bien jusqu'à 30 kilomètres. J'étais sur mon temps record. Et tout d'un coup, voilà, j'ai rencontré un mur. Et je ne sais pas si vous avez jamais rencontré des murs, hein, pas juste dans des marathons, mais dans vos vies. Ça part bien. Et tout d'un coup, voilà, on peut dire un os ou un mur. Et tu dis, waouh. Ça peut être la santé, ça peut être une relation, ça peut être des circonstances, un accident, ça peut être une déprime tout d'un coup qui tombe sur nous. On était tellement heureux et tout d'un coup, on se lève le matin, on a envie de rien. Et quelquefois, la vie est comme ça. Et je dois dire que j'ai dû courir après 10 kilomètres vraiment souffrant. J'étais dans une souffrance et je ne peux pas décrire ça, il faut le faire. Mais j'ai dit, je ne vais pas m'arrêter. J'aurais dû. Je ne vais pas m'arrêter. Et vous savez, quand vous faites un marathon, vous faites tout votre entraînement pour les derniers 2 kilomètres. Parce que tout le monde, bon, tout le monde, mais on peut courir plus ou moins 35 kilomètres, je dirais. Même vous, si vous devez, si un ours est après vous. Donc, même si vous ne courez pas vite, vous allez arriver à 35 avec les réserves que vous avez. Juste là. Mais de faire ces derniers 5, 7 kilomètres et tout ça, et souvent le moment vraiment d'agonie, c'est 40 kilomètres. Le moment de l'agonie. Et là, il ne te reste que 2 kilomètres finalement. Et 200 mètres, parce que la reine Victoria, elle voulait que le premier marathon olympique arrive devant son château de Windsor. Et donc là, il a ajouté 200 mètres. Et donc tous les marathoniens, ils maudissent la reine d'Angleterre. Parce que ces derniers 200 mètres, même si c'est que 200 mètres, mais après 42. Et donc 40 kilomètres, ah, tu arrives là et tu dois quand même encore terminer. Et tu dis, est-ce que je vais arriver jusqu'à la fin? Alors là, quand j'étais à Rotterdam, les derniers 2 kilomètres, c'était l'angoisse, l'agonie totale. Mais après quelques années, après, j'ai appris quand même, hein, j'ai appris un petit peu. Et j'avais aussi fait un semi-marathon à Falampin, où je suis vraiment, j'ai eu un coup de chaleur. J'étais dans un coma après. Donc là, tu vois combien je suis têtu, quelquefois. Au lieu de m'arrêter, je cours jusqu'au coma. Et donc là, j'ai dit, mais après le coma, j'ai appris. Tu vois, faut pas aller jusqu'à là. Et après, j'ai fait le marathon de Berlin. C'était mon dernier marathon. Et donc là, j'étais plus sage. J'ai commencé plus lentement. Tu vois, j'ai dit, ah, je vais quand même aller à mon rythme. Mais quand même, vers 35 kilomètres, j'étais vraiment épuisé encore. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Robert? T'es épuisé à 35. Mais au lieu de forcer, j'ai dit, allez, je vais marcher. Non, là, pour moi, c'était scandaleux. Il faut être un fonceur pour comprendre ça. Il faut être un pionnier pour comprendre ça. Mais je dis, oh, je vais marcher. Je dis, non, allez, je vais marcher, parce que tu es fatigué. Donc j'ai marché un peu, j'ai marché peut-être 1 kilomètre, et c'est terrible quand tu marches, parce que tout le monde te dépasse. Il y a même des petites jeunes, des femmes qui te dépassent. Oh. Et après, les gens te regardent, parce que c'est marcher. Donc j'ai marché, et après tu peux t'alimenter un peu, il y a des stands où tu prends un peu de pain. C'est pas la Sainte-Seine, hein, mais tu prends un peu de pain et tu bois bien et tout ça. Et après, j'ai marché 1 kilomètre et c'était bien après. Tu vois? Et après, je me rappelle que je suis arrivé à 40 kilomètres et j'ai dit, oh, je vais bien finir. Je ne vais pas avoir le mur, je ne vais pas avoir un os, je vais bien terminer. Et c'était super parce qu'à la fin je courais et j'étais là, il y avait le Dem Deutschen Volk, la porte de Brandenburg, là, et je courais au milieu de ça, il y avait la foule. Oh, et j'ai pris du temps, j'ai dit, oh, mais peut-être c'est ton dernier marathon, Robert, tu sais, j'avais un peu cette pensée, et je dis, il faut bien finir. Donc je serrais la main des gens, on dirait, bon, je pense que j'étais 5 000e ou quelque chose dans la... C'est sur 10 000 hein, quand même, mais bon, c'est... Et aussi le gars qui a gagné, sans surprise, un Kenyan, et il a fait le record du monde. Et donc moi j'étais quand même dans la même course, où le pionnier, celui qui était avant... Il avait quand même fait le record du monde. Et donc, j'étais dans la course où il y avait le... Bon, ça a été battu depuis, mais bon. Tu vois, il y avait quand même un héros qui était devant moi, qui, bon, je ne sais pas comment, il avait des jambes, je ne sais pas, il n'y a aucun poids. Hein. C'est une plume qui court. Hein. Et donc, voilà, j'ai appris 40. Quand tu arrives à 40, il faut bien finir. C'est toujours à la fin que c'est le plus dur de terminer. Et après, voilà, je me suis rendu compte que l'année prochaine, c'est 40 ans de ministère pour moi. Ça veut dire que ça fait 40 ans, depuis 40 ans que je cours. Et donc j'ai dit, mais Seigneur, il faut que je termine bien, que je ne vais pas terminer avec un tas d'amertume dans mon cœur. Oh, c'est un sentiment d'échec. Voilà, ou complètement épuisé, oh, je ne veux plus rien savoir, tu vois, ou la Bible a perdu, c'est tellement l'habitude avec la parole ou avec les prédications. Non. Allez, Seigneur, même si quelquefois sur ma route je dois aller plus lentement, mais je vais te suivre pour avoir pleinement la victoire. Et donc, ça, c'est mon histoire, hein. C'est pour commencer, mais nous avons tous nos histoires. N'est-ce pas? Nous avons tous nos histoires. Nous sommes tous dans une course quelconque. Et ça peut être très local, ça peut être très familial. Bon, en tout cas, on est tous familial. On est tous local. Et après, ça peut aller plus loin. On peut avoir des intérêts, des loisirs, des interactions avec d'autres. Et ça, c'est aussi notre mandat, c'est notre mission. Il ne faut pas avoir une mission illusoire. Ce que tu vis, c'est ta mission. Les gens que tu rencontres, c'est ton champ missionnaire, là où tu es. Et donc, comment bien terminer? Et collectivement, comment bien terminer? Parce que même nous, il y a des gens qui sont à 10 km dans leur course, il y a d'autres qui sont à 41. Et on verra comment Dieu va. Mais on doit tous bien terminer. Hein, je dis, non, interdit Rotterdam, interdit Fallon-Pin où tu finis en coma. Je dis, Robert, tu étais stupide. Tu aurais dû marcher. Tu aurais dû te reposer un peu. Tu vois. Et ce n'est pas une honte, hein, quelquefois, de juste aller plus lentement. Ah voilà, un doigt qui se lève de Sylviane, comme ça. Je dois faire attention, hein, je l'ai dit. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous donner cette parole, d'accord, sept verbes pour bien terminer. Et donc, c'est basé sur trois petits passages d'hébreu, d'accord. Et donc, c'est facile, hein, vous n'avez qu'à marquer sept verbes et après vous méditez ces verbes pendant la semaine et ça va vous aider à bien terminer, à bien vivre. Et donc là, je commence en Hébreux 12, hein, après avoir parlé des marathons et tout ça. Et Hébreux 12, et premier verset, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, on peut dire de martyrs, nous faisons partie d'un tout un courant des gens qui ont terminé leur course avant nous. Il y a des gens qui ont, quelquefois je pense, même dans le Nord, je me rappelle de Pierre Lannoy par exemple. Je pense à Pierre Lannoy. Je ne sais pas pourquoi je pense à Pierre Lannoy. Et je me rappelle un jour, je voyais ce monsieur, on faisait de l'évangélisation à Tourcoing, et c'était quand on faisait les barbecues et tout ça. Et je le voyais comme un homme tout humble qui marchait dans une rue de Tourcoing. Il était de dos de moi et je le voyais juste marcher lentement sur cette route. Et j'ai dit, ah, voilà. Dieu m'a vraiment, je ne sais pas, j'étais touché, j'ai toujours cette image en moi, comme quelqu'un qui terminait sa course, mais avec victoire, honneur, humilité. Et bon, bien sûr, je ne vais pas faire l'adoration, le culte des ancêtres. Mais tu vois, on est environné de toute une foule de personnes qui nous ont précédés, qui ont marqué nos vies, qui ont laissé leur témoignage en nous. Et certains sont vraiment dans la gloire, comme tous ces héros de foi en Hébreux 11. Mais je pense que le souvenir de toutes ces personnes doivent nous exhorter à bien terminer. Eux, ils ont bien terminé. Il y avait certains, et là encore, on ne doit jamais juger les gens. Parce que certains, on peut dire, waouh, eux, il a eu beaucoup de victoires, comme Gédéon, toutes ces. Tu sais, ils commencent avec ceux qui ont eu de grandes victoires, résurrection des morts et tout ça. Mais ils terminent avec ceux qui étaient sciés en deux, qui sont morts, ils n'ont pas eu de résurrection. Ils ont eu finalement, selon le monde, un grand échec. Mais il dit qu'ils attendaient une meilleure résurrection. Et donc, il ne faut jamais juger vous-même par vos résultats. Mais je vais juste vous dire ça, parce que vous serez condamné. Il ne faut jamais vous juger par vos résultats. Il faut toujours vous juger par votre amour pour Jésus et par votre fidélité. Et il y a pour... Je dirais, j'allais faire un livre peut-être en jaune, théologie pour les nuls, tu vois, et encouragement pour les nuls. Et je dirais, si je faisais ce livre, je dirais, pour tous les nuls, il y a une meilleure résurrection. Tu vois, pour tous les nuls, qui sont si en deux, qui sont vaincus par ce monde, bon, je ne dis pas vaincu par le péché, ni vaincu par tu vois, mais juste vaincu par des circonstances. Il y a une meilleure résurrection. Et le monde n'est pas digne de certaines souffrances que vous vivez. Et quand je vois autour de moi certaines personnes qui souffrent, le monde n'est pas digne de ces souffrances. Mais il y aura une meilleure résurrection. Et ça peut nous consoler aussi. Et ça, c'est aussi ces témoins des gens qui ont souffert avant nous, qui ont eu des temps difficiles, qui nous encouragent. Allez, continue. Et donc voilà, allez, on est environné de ces témoins. Et donc, à cause de ça, et à cause surtout de Jésus, premier verbe, rejetons tout fardeau et le péché. Et donc, le verbe là, c'est rejetons. Qu'est-ce que vous devez rejeter. Qu'est-ce que vous devez rejeter? Bien sûr, première chose à rejeter, c'est la lourdeur. C'est cette lourdeur. Et ça vient d'où? Peut-être c'est spirituel, peut-être c'est la lourdeur même de notre orgueil, parce qu'on veut, on veut pas marcher. Et il y a beaucoup de lourdeurs qui peuvent venir. Quelquefois, je ne peux pas expliquer toutes les lourdeurs. Sauf qu'il faut rejeter. Il faut rejeter les lourdeurs. Et là, en Matthieu 11, 28, Il y a une manière de rejeter les lourdeurs. Et je ne sais pas si... Bon, je vais frôler une bêtise, mais je vais le dire quand même. C'est quelquefois, est-ce que l'Église est lourde? Est-ce que votre vie chrétienne est lourde? Oh, il faut lire la Bible chaque jour, il faut prier, il faut être gentil. Mais fou, c'est lourd. Tu vois, il faut avoir ministère. Même pour moi, je vois, j'étais à plein temps pour Dieu, tu sais, toutes ces années. Il faut quand même être à l'auteur, il faut... Et quelquefois, on a des habitudes. On construit des habitudes, on construit des religions, des religiosités. Et ça pèse sur nous. Ça pèse quelquefois sur nous, des obligations. Et quelquefois, ces obligations sont une construction humaine. Et ça serait bien de dire, mais est-ce que... Voilà, parce qu'encore là, quand tu es un peu plus âgé, tu peux mieux voir tes erreurs du passé. Et quelquefois, mes erreurs, je ris, parce que ça a dû faire plaisir à Dieu même, mes erreurs, parce qu'ils étaient tellement enthousiastes. Et j'étais dans un groupe de personnes où on faisait un peu la concurrence de la spiritualité, même si on ne le dirait pas comme ça, tu vois. On était des jeunes missionnaires, voilà. Et c'était, on avait le culte. C'est presque une idolâtrie, le culte du culte personnel le matin. Tu vois. Et après, on parlait de John Wesley dans nos réunions, qui se levait à 4 heures du matin. Tu vois. Mais moi, je ne suis pas John Wesley. Moi, j'aurais dû juste accepter ça au début de ma vie. Je ne suis pas John Wesley. Tu vois. Et John Wesley, il vivait dans un temps où on pouvait être sur son cheval. Et tu vois, c'est un autre temps où tu te levais avec le soleil, tu te couchais. Quand... Mais bon, moi, John Wesley, 4 heures du matin. Donc, j'ai mis mon réveil pour 4 heures du mat, et après on dit, oh, mais moi je vais être. Et après le matin, tu as un peu de zélé, tu vois, on se réunit dans une réunion, 4 heures du matin, mais il faut nous voir. Et on dit, on va prier jusqu'à 7 heures, tu vois. Et après 3 heures de prière, il est que 7 heures du matin, et tu as toute une journée devant toi. Non, mais. Mais c'était super aussi, tu imagines que tes ailes comme ça, mais c'était un peu lourd après une semaine. C'était un peu lourd après deux semaines, tu vois. Et finalement, tu te rends compte que tu n'es pas John Wesley. Mais voilà, juste lisons un peu. C'était un fardeau que j'avais construit moi-même. Finalement. Je ne pense pas que Dieu me demandait de le faire. Mais il rigolait bien, je ne me sentais pas condamné non plus, et sans doute... Ça faisait partie de mon parcours. Mais combien de constructions humaines, surtout religieuses, avez-vous mis sur vos propres épaules? Et donc, écoutez ce que Jésus dit. Et aussi, bon, juste pour avant de dire, est-ce que Dieu est lourd pour toi quelquefois? Est-ce que Dieu, notre Dieu, oh, le bon Dieu, est-ce qu'il est lourd? Parce que pour beaucoup de gens, il est un peu lourd. Parce qu'il dit, mais pourquoi il a souffrance dans le monde? Ils ont tous... C'est un peu lourd, c'est vrai, et donc j'ai dit, hey, non, mais bon, on ne parle pas de ça. Mais Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, ah oh, merci Seigneur, il y a une place pour ma fatigue, venez à moi, j'ai le droit d'être fatigué, venez à moi, vous tous, et après il dit, tout le monde est fatigué, oh mais alléluia, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » D'accord, il y a une réalité d'être chargé par des responsabilités, par les devoirs. C'est une réalité de la vie, on est chargé. Non, c'est vrai, il y aura des fardeaux. Mais comment rejeter un fardeau, donc, s'il y aura un fardeau? Est-ce que ça veut dire que je vais devenir idéaliste, je vais dire, oh, mais je vais déléguer tout, je vais rien faire, je vais rester oublié. Non, il y a une réalité d'être responsable et d'être engagé dans la vie. Mais il dit, venez à moi. Si vous êtes chargé, je vous donnerai du repos. Le repos est vraiment un ministère. Ça fait partie de ton ministère. C'est de vous reposer. C'est de vous reposer, pas au lit. Oui, vous pouvez vous reposer au lit, mais pourvu que Jésus soit au lit avec vous. Il ne faut pas être au lit avec TikTok ou avec Facebook. Il faut être au lit avec Jésus. Tu vois, vous avez tout le droit de rester au lit ici. Si vous êtes là dans la prière, il vous restaure et tout ça. Et donc, je vous donnerai du repos. Prenez, et après, prenez mon joug. Allez, prenez mon joug. C'est le premier joug à prendre. Rejetant d'autres jougs, au nom de Jésus, rejetant ces jougs religieux, rejetant tout joug imposé par les hommes, rejetant ces jougs et prenez le joug de Jésus. Rejetant et prenez le joug de Jésus. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ah, là, recevez mes instructions. Pas vos instructions, pas les instructions de ce monde, mais recevez mes instructions. Il y a tout un art pour recevoir les instructions de Jésus. Mais je pense que ces instructions, c'est vraiment la sagesse. Et je dirais, Jésus, là, il est comme une maman qui donne des instructions à ses enfants pour les aider à mieux grandir. Et recevez les instructions. Est-ce que c'est des instructions, des commandements violents, des impositions? Je ne pense pas, parce qu'il dit, car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Et en nous recevant, tu sais, nous, on a eu des professeurs qui étaient durs et orgueilleux. Et on a eu des chefs qui sont durs et orgueilleux. On a eu jamais des pasteurs, mais on a eu des gens qui nous donnent des instructions. Mais ils ne sont pas doux et humbles de cœur, parce qu'une instruction doit être véhiculée par un caractère. Pas la peine de donner des instructions si c'est orgueilleux ou si tu es dur, si tu veux casser avec tes instructions. Et Dieu ne veut pas nous casser avec ses instructions. Et il n'est pas orgueilleux. Il faut voir Jésus. Il faut voir Jésus. Il est doux et humble de cœur et il nous donne ses instructions. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Merci Seigneur. Et après, verset 30, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Et donc rejetant. Tu sais, c'est bizarre là de parler d'un fardeau léger. C'est un oxymoron, on dit. C'est pas le homoron. Mais c'est un oxymoron. Ça veut dire que c'est une contradiction. Aigre doux, tu vois. C'est un fardeau léger. Et donc ça, c'est tout le mystère de servir Dieu. C'est tout le mystère de marcher avec Dieu. C'est que tu as des vrais fardeaux. Tu as des vrais jougs. Tu as un vrai ministère. Tu as une vraie responsabilité, mais tu portes cette responsabilité légèrement. Et si tu veux bien terminer, il faut apprendre ça. Si tu veux éviter le burn-out, il faut apprendre ça. Parce que sinon, on va faire un burn-out. Mon joug est aisé et mon fardeau léger. Alors là, ça prend toute une vie pour comprendre ça. Je ne dis pas que des... Quand je me suis levé à 4 heures du matin, je ne comprenais pas ça. Et je comprends un peu mieux maintenant. Tu vois, je comprends un peu mieux comment bien terminer, comment faire. Et j'ai une vraie responsabilité. Et je pense que cette responsabilité va augmenter dans mes dernières années devant Dieu. Mais la légèreté va aussi augmenter. Et donc, c'est une contradiction ce que je dis, mais beaucoup de choses profondes dans le cœur de Dieu sont des contradictions. Parce que c'est le fardeau de Dieu qu'il faut porter. Prenez mon joug. Et donc, si vous prenez le joug et le fardeau de Jésus, vous rejetez tout autre fardeau, d'accord? Et donc, ce matin, rejetant tout autre fardeau, qui vienne des hommes ou de vous-même ou de quoi que ce soit, rejetant tout fardeau. Et après, parce qu'il ne faut pas juste rejeter le fardeau, il faut rejeter le péché. Amen. Rejetant ces péchés, ça veut dire des choses qui volent notre beauté originelle. Tu sais, Saint Augustin, il a parlé du péché originel à hériter d'Adam. Mais moi, je dirais, avant le péché originel, il y a une beauté originelle que Dieu vous a fait tellement beau. Il m'a fait, oh, mais si tu pouvais voir Robert Yves dans l'intention de Dieu, dans ma beauté, et vous allez me retrouver au ciel, hein, quand tout est accompli, Je vais vous voir dans toute votre beauté. Et tu vois, chacun individuel, de toutes les races, de toutes les couleurs, dans leur beauté originelle. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour restaurer la beauté originelle de la création et de l'humanité. Il a payé le prix pour ça. Et bien sûr, qu'est-ce que le péché fait? Le péché est venu pour abîmer notre beauté originelle. Donc c'est pour ça qu'il faut haïr le péché. Ce n'est pas juste quelque chose comme une sorte de moralité, il ne faut pas pécher. Mais pourquoi il ne faut pas pécher? Parce que le péché nous abîme, et ça vole notre vocation, et ça vole notre sens, et ça vole notre gloire. Et donc, rejetons le péché! Et après, tu sais, on est tellement compliqué. Parce que c'est jamais moi qui pêche, c'est le diable, qui a la lutte spirituelle. Et donc je dis, mais attendons, tu sais, Jacques, il dit, c'est quand vous pêchez, il ne faut pas dire c'est Dieu qui me tente. Bon, bien sûr, Dieu tente personne, mais tu sais, les gens à l'époque, ils voulaient éviter leur responsabilité pour le péché. Et si nous, on est chrétiens, et donc nous, on ne va pas dire c'est Dieu qui me tente, c'est Dieu qui m'a fait comme ça, c'est sa faute. Si je veux voler, bon, mais c'est lui qui m'a fait voleur. Non, mais c'est une logique, il est tout puissant. Mais nous, en tant que chrétiens, et surtout dans certaines cultures, c'est toujours le diable aussi. C'est le diable, c'est le diable. Mais c'est pour sauver la face. Mais Jacques, très réaliste qu'il est, l'apôtre Jacques, il dit non, mais quand vous péchez, c'est votre propre convoitise. Et donc là... Quand vous regardez, hein, qu'est-ce que vous trouvez? Ah, ma beauté originelle, Robert Superman. Mais malheureusement, il y a une petite partie qui s'appelle convoitise. Et même si je suis baptisé, même si je suis tout ce qu'il faut, CV et tout ça, j'ai toujours ma convoitise. Et cette convoitise, ah, il faut pas la teaser là. Il faut le rejeter. Et Jacques, il dit, vous péchez quand... par votre propre convoitise, quand ça vous attire. Quand ça vous attire. Et quand ça vous séduit. Et après, vous péchez. Et vous allez sur une voie de la mort. Et votre vie est un peu lourde après. Et donc, c'est très facile d'être attiré. Et moi, je suis très attiré par ma langue. Quelquefois, je peux avoir des conversations. Et après, ça augmente, et après, ça augmente, et après, ça augmente. Et mince, attiré, séduit, paf, j'ai péché. Bon, après, on est pardonné, si on se rend compte. Mais qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous attire? Et ça, c'est pas un péché d'être attiré. C'est même pas un péché d'être séduit, mais c'est un péché de céder. Et c'est pour ça qu'il faut rejeter. Et ça, on a la volonté. Dieu nous a quand même donné un choix. Et il n'y a aucune tentation qui nous a saisi, qui n'est pas humaine. Hein? Et Dieu nous donne une sortie. Et donc, il ne faut pas céder facilement. Quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on a le fardeau. Donc c'est pour ça que ça commence avec le fardeau. Prenez le joug de Jésus. Et vous, déjà là, ça va vous mieux préparer à lutter contre le péché. Mais quand vous êtes tout lourd avec le fardeau des embruns, voilà, c'est un antidote le péché. Vous savez, les gens qui pêchent beaucoup, c'est les gens qui portent un fardeau de vie, de souffrance et tout ça. Mais s'ils se dégagent du fardeau, c'est plus facile après de refuser le péché, de ne pas être attiré, que la convoitise ne soit pas attisée. Et donc voilà. J'ai déjà parlé beaucoup, j'ai fait qu'un verbe, donc je vais aller un peu plus vite, mais bon, c'est pas pourquoi j'ai dit tout ça. Et donc rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, comme une lettre à la poste. Ah, j'ai péché comme une lettre à la poste, tu vois. J'ai parlé, j'ai mal parlé, j'ai mal agi, j'ai pris mon écran, j'ai fait ça. Comme une lettre, moi c'est vrai, il faut accepter, mais il ne faut pas être comme une lettre à la poste comme ça. Il faut rejeter ça. Il faut rejeter, parce que Dieu a une beauté originelle pour nous, il a une sainteté pour son Église. Et donc rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et après, deuxième, et là je pense à un marathon, et courant! Et courons avec persévérance. Courons Allez, courons. Le nord, c'est des... Non, c'est pas courant, c'est courant. Voilà. Mais courons ensemble. On a une mobilité, un mouvement. Il faut toujours être en mouvement. Et courons quoi ? Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Et le mot épreuve en grec, là, c'est agon. Agon. C'était dans les Jeux Olympiques, les gens ils devaient faire quelques tours. Mais agon, c'est là où on a notre mot agonie, l'agonie. Est-ce que vous avez une situation agonisante? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à une certaine agonie? Et donc là, c'est vrai, il faut rejeter le fardeau, le péché de ça. Mais après, c'est aussi la réalité de la vie, qu'il y aura certaines épreuves. On est adulte et on doit courir dans ce monde. Et on va, ouh, ça chauffe, et on va avoir une tendance à l'agonie. Mais, et je pense que Jésus, il a connu l'ultime agonie dans le jardin de Gethsémani, parce qu'il avait une épreuve. Lui, c'était le recordman du monde qui courait avant nous tous, tu vois. Mais dans son agonie, il apprenait à accepter le joug de son père, tu vois, dans tout ça. Et je pense que nous aussi, il y a une sorte d'agonie glorieuse. Je ne veux pas être, il faut se flageller et tout ça. Mais il y a une agonie qui restaure notre beauté d'homme et de femme. Si c'est porté en Jésus, tu vois. Et donc pourquoi ça doit être porté en Jésus? Cette agonie est transformée. Et il faut courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés, ça la clé, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur, ça veut dire il est le premier leader, l'archer à Argo, je pense, l'archi-Argo, c'est celui qui l'archi-Argo, je pense, c'est celui qui a couru avant nous, et il est l'auteur, il est le leader, il est notre hégémonie, on peut dire. Il est notre autorité, c'est lui qui nous donne la bonne pensée. Et donc les yeux sur lui, qui nous donne même une inspiration, et qui nous donne une force, et qui nous donne une capacité de passer le mur de l'agonie, pour bien terminer. Et donc peut-être certains, vous êtes dans l'agonie, et comme je dis, je sais ce que c'est l'agonie physique, d'arriver à 40 km dans un marathon. Et il y a certains moments dans la vie, je ne sais pas, bon, même les psychologues, avec les ados, c'est un moment d'agonie dans une famille, ou avec, ou quand ils quittent la maison, et c'est le nid vide, c'est un moment dans un couple, où c'est tendu, quelquoi, et c'est l'agonie. Et il y a des moments d'agonie dans la vie. Et il y a même si tu es jeune, il y a le moment d'agonie d'être ado, et c'est terrible d'être ado. Avec toutes ces hormones et toutes les jeunes, il faut vraiment les comprendre. C'est dur d'être marié, d'être un jeune couple marié. Et il y a des moments d'agonie dans nos vies. Quand on aura le mur, ces moments, mais les yeux fixés sur Jésus, on peut continuer à courir et on peut bien terminer. On peut. Et donc là, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, et voilà, et qui l'amène à la perfection. Téléote en grec, de telos. Il va mener nos vies à la perfection si nous persévérons et si nous allons jusqu'au bout. Et nous tous, il va restaurer notre beauté originelle. Il n'y a rien de trop dur pour lui de restaurer. Moi, je médite beaucoup là-dessus. Je ne peux pas être heureux dans le ciel si j'ai un souvenir d'un tas de choses non accomplies. Si le péché, si le mal pouvait nous marquer indéliblement, ça serait terrible. Tu vois, si on est marqué par un échec, ou marqué, si le monde est marqué par Auschwitz pour l'éternité, si ce souvenir de tous les juifs massacrés, si les souvenirs des enfants qui meurent de faim, ça perdure. Mais il y aura une transformation de tout ça. C'est ça, et c'est là pour ça, il faut aller jusqu'au bout pour avoir la foi, pour bien terminer. Et de voir que Dieu va tout restaurer. C'est comme cette petite pierre de Daniel. Et il dit, ça a fracassé toute l'histoire. Parce que la statue, c'est une image de l'histoire du monde. Et le royaume de Dieu qui sort, Jésus, paf, 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 il pulvérise l'histoire. Et tout ça, c'est comme est emporté par le vent. Et moi, je pense ça, j'y crois que ce royaume de Dieu, que ton règne vienne, que ta beauté vienne, Jésus, que tu restaures toutes choses par ton règne d'amour, et que toute l'histoire, tout le mal va être complètement pulvérisé. Et il ne restera que le vent qui... Que la poussière de tout ça. Et c'est tellement lourd maintenant. C'est tellement réel maintenant. Mais avec le règne de Dieu, tout ça, fou, magnifique. Alléluia. Et donc, 5 minutes pour donner. Il faut donner 5. Et donc. Rejetant, courant. Allez, je vais vous donner les 6 autres rapides, c'est facile. Allez, je vais arriver. Hébreux 10. Il faut tourner un peu, et il dit, verset 24, 10, 24, « Veillant les uns sur les autres. » Et donc, veillant, ça veut dire avoir une pensée pour l'autre. Ne sois pas égoïste. Avoir une pensée plus large que juste toi. Et veillant les uns sur les autres. Et après, incitons-nous à l'amour. Hein, incitons-nous à l'amour et aux œuvres bonnes. Ah, Seigneur. C'est le mot inciter là en grec, c'est paroxysme. C'est là où on a le mot colère. Là. Et donc, c'est une provocation prophétique. C'est pas si. Quelquefois, on a besoin d'être un petit peu piqué pour inciter. Pour être premièrement nous-mêmes incités à l'amour et aux bonnes œuvres, mais même pour qu'une église soit incitée à l'amour et aux bonnes œuvres, quelquefois le Saint-Esprit il vient et dit « Oh, allez, quitte un petit peu la zone de confort, mon ami. » Pour inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et donc, veillant, inciter. Et après, verset 25, « N'abandonnons pas !» Il dit notre assemblée. Mais là, je veux juste dire ce matin, il ne faut pas abandonner. Never give up. N'abandonnons pas. Parce que dans une course, quelquefois, dans l'agonie, j'avais envie de creuser un trou et de mourir et de me mettre dedans. Mais même s'il faut marcher, il ne faut pas abandonner. D'accord? Et je vous dis ce matin, il ne faut pas abandonner, surtout il ne faut pas abandonner Jésus et votre foi. Surtout, même si c'est l'agonie totale, la beauté originelle vous attend. Et donc il ne faut pas abandonner et il faut continuer. Et même quelquefois, c'est toute la force du mal, c'est pour nous faire abandonner, pour tout lâcher. Et ça arrive, il faut prier pour les gens qui lâchent tout. C'est dur, et je comprends. Mais je vous encourage, provocation prophétique, n'abandonnons pas notre vision. Et il dit là, n'abandonnons pas notre assemblée. Et donc ça, c'est n'abandonnons pas notre synagogue. Et ça veut dire nos relations. Ce n'est pas juste l'édifice religieux, c'est pas oh, si tu quittes source de vie, t'es banni au troisième cercle de l'enfer de Dante. Non, c'est pas de quitter une église, d'aller dans une autre église, ou même de rester à la maison si tu gardes ta foi. Bon, bien sûr, il faut venir à l'église, mais ça veut pas dire ça. Ça veut dire il faut pas abandonner vos relations privilégiées. Il faut pas abandonner vos relations. Faites tous vos efforts pour maintenir le contact avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis. C'est facile. Oh, je vais plus te voir. Tu vois, c'est... Ah, là, ça, c'est le petit péché qui vous attire. C'est la convoitise qui vous attire vers l'abandon. Et il faut dire non. Gardons nos relations. Gardons autant que c'est possible nos relations. Et donc, n'abandonnons pas. Et après, exhortons-nous l'encouragement. Exhortons-nous mutuellement. Mutuellement. Une pédagogie d'encouragement. Ah, avoir une pédagogie d'encouragement. De dire, voilà, je veux vous encourager. D'un côté, je le dis moi-même, hein, c'est un peu gonflé, mais après 40 ans, j'ai un bon ministère, parce que je vois que que Dieu me donne une parole pour encourager les gens. Et je pense que c'est biblique. Je pense que chaque chrétien, on doit avoir une parole d'encouragement. Et d'avoir une pédagogie d'encouragement. Pas de critique. Oh, ça va pas, ça va pas, ça va. C'est dans les écoles. J'ai compris, on a une pédagogie de correction en France. C'est affreux. On est toujours jugé. Oh, c'est pas. Et ils disent, ah, c'est pour motiver les gens. Si on dit, c'est pour les motiver. Mais non, ça les casse. Ça crée la souffrance. Ça crée des larmes. Surtout pour les petits et les vulnérables. Ça endurcit trop les gens. Et donc, il faut encourager. Et il y a toujours, même si 90% est nul, il y a toujours 10% à encourager. Il faut commencer avec le 10%. Il faut encourager, encourager, encourager. Dans l'église, il faut encourager mutuellement chacun. Et donc voilà. Je pense que j'ai 6 là, déjà. Hein? C'est quoi? C'est rejetant, courant, veillant. Incitant, n'abandonnant pas, oh, exhortant, non mais je pense que j'ai ajouté, j'ai 6 je pense, ah oui c'est 6, ouais. Et donc j'allais dire 7, et donc pour terminer, on revient à Hébreux 12, et il dit, en vue, bon, quelques traductions disent au lieu de, mais pour moi, toute ma théologie est contre au lieu de la croix, au lieu de la joie. Tu vois, au lieu de la joie, il a supporté la croix. Tu vois, c'est quelques traductions. Dans ma Bible ici, Louis II, Colombe, j'ai au lieu de la joie. Et ça me blesse chaque fois que je lis cette traduction, parce que dans toutes les autres traductions dans le monde, il dit en vue de la joie. Et donc j'essaye, pour moi, je dis, oh, je ne veux pas être un chrétien au lieu de la joie, je vais supporter ma croix. Tu vois, au lieu de la joie. Je vais supporter ma croix. Non, mais il y a quelque chose. Je ne pense pas que Jésus, il était tristement là. Il a dit, mais en vue de cette restauration de la beauté de mon Église, en vue de la restauration de la beauté originelle, je supporte cette agonie. Je supporte. Et tu vois, ça change tout. En vue de ma victoire, de la fin de la course, passant par la porte de Brandenburg avec les acclamations de la foule, je vais supporter ce mur à 40 kilomètres. Et c'est au lieu de la joie vous aide, la vision vous aide à supporter. Et donc pour moi, il y a une mauvaise théologie, même si c'est possible de le traduire en grec des deux manières. Mais je pense que quelqu'un qui connaît la Bible, et dans les traductions britanniques, ça n'existe pas au lieu de. Je ne lis jamais instead of, au lieu. C'est toujours... for the joy, à cause de la joie. Et là, je dirais, je ne veux pas être un chrétien au lieu de la joie. Je veux être un chrétien en vue. Et pourquoi c'est en vue? Parce que juste avant, les yeux fixés sur Jésus. Et donc, je ne comprends pas. Tout d'un coup, Hébreu, il t'encourage d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Et après, tu coupes la vue. Et tu dis, au lieu de la joie, il faut fixer vos yeux sur la souffrance. Mais je ne comprends pas. Il faut avoir une perspective de joie quand vous êtes devant un mur. Il faut avoir une perspective de joie quand vous êtes devant le mur. En vue de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Il a supporté. Et donc ça, c'est le dernier mot. Supporter. Supporter la croix. Hein, supporter le mur. Pour bien terminer. Pour bien terminer. Et donc voilà, j'ai terminé. Et peut-être ces 7 paroles, s'il y a peut-être toutes les paroles, tous les verbes qui vous ont touché, mais peut-être je peux juste prier et on accueille ça maintenant. Et que ça vous encourage. Que ça vous encourage. Que ça vous encourage. Seigneur, nous voici devant toi. Et Seigneur, je te demande de nouveau de fixer nos yeux sur toi, Jésus. Tu es l'auteur de ma foi. Tu es mon hégémonie. Et tu vas restaurer ma beauté originelle. Et Seigneur, quand je regarde même ma vie, mon passé, il y a des choses moches. J'ai des souvenirs moches. J'ai des souvenirs d'échecs. J'ai des souvenirs de péchés. Mais merci Seigneur, parce que tout cela va être pulvérisé dans ton règne d'amour et de justice. Et j'aurai même pas le souvenir de ça. Et déjà, je veux me programmer pour le royaume de Dieu. Déjà, je veux me programmer pour voir ma beauté originelle. Déjà, je veux me programmer pour courir avec persévérance avec toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, je te demande d'incarner ces verbes ce matin en nous. Incarnons ces verbes dans la personne de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et donc je les reçois au nom de Jésus. Amen. Amen.